matin, première, excellent début de semaine, il est 7h22 et c'est une semaine qui sera rythmée par des souvenirs, des commémorations en provenance de Berlin et ça tombe bien, les souvenirs, il adore ça. Bonjour Pierre Marlet.
Bonjour.
Avec vous ce matin, on retourne 30 ans en arrière, nous sommes le 4 novembre 1989 et ce jour-là, au moins 500 000 personnes se rassemblent dans ce qui s'appelle encore Berlin-Est. On ne le sait pas encore ce jour-là évidemment Pierre, mais c'est le prélude à la chute du mur de Berlin 5 jours plus tard.
Et au moment où l'on vit les événements, il est bien difficile en effet de prédire un moment d'histoire. Le 4 novembre 1989, les observateurs de l'époque sentent bien que quelque chose d'important se passe à l'Est, mais ils ne parlent pas de la chute prochaine du mur. Ce jour-là est un samedi sur Alexanderplatz, vitrine de l'architecture commise de Berlin-Est. Un demi-million de personnes, et c'est une estimation minimale, défient le pouvoir en place. Les orateurs se succèdent pour demander plus de liberté, liberté de se réunir, liberté d'opinion, liberté de presse. Le pouvoir laisse faire. En ce 4 novembre, la Volkspolizei, la police du peuple, surnommée les Vopo, se limite à surveiller de loin l'imposante manifestation.
Pourquoi le pouvoir est-allemand laisse-t-il ainsi s'exprimer la contestation ?
Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter un mois en arrière. Le 7 octobre, la RDA, la République démocratique allemande, fête son 40e anniversaire. Un défilé dans la plus pure tradition communiste, en présence de Mikhaïl Gorbatchev, aux côtés du leader est-allemand Erich Honecker. Cela se termine par ce qu'on appellera le baiser de la mort. Gorbatchev embrasse Honecker à la russe, mais une fois dans son avion vers Moscou, il dit « Débarrassez-moi de ce dinosaure stalinien », car Gorbatchev espère qu'à coup de glasnost, transparence et de perestroïka, souvenez-vous, restructuration, eh bien le système communiste va se transformer, se moderniser, s'adapter. Il se trompe, parce qu'avec une goutte de démocratie et une autre d'économie de marché, il ouvre les vannes, il prépare l'effondrement du système et en attendant RDA, Honecker doit céder la place, mais il est remplacé par un apparatchik du régime, Egon Krenz. La contestation ne fait qu'enfler. Comme Moscou n'autorise pas la répression à l'ancienne, eh bien sa mission est impossible.
Pour bien comprendre le contexte, Pierre Marlet, en cet automne 1989, c'est toute l'Europe de l'Est qui est en ébullition.
Et c'est une véritable contagion, ce sera les dominos d'ailleurs. En Pologne, par exemple, le syndicat indépendant Solidarność a été légalisé en avril 89. Un vrai bouleversement, parce que jusqu'ici, toute voix discordante était analysée par le pouvoir communiste comme une traîtrise qui bénéficiait aux ennemis de l'OTAN, de l'autre côté du rideau de fer. Et justement, ce rideau de fer qui coupe l'Europe en deux, il commence à se lézarder et ça c'est le début de la fin.
Oui, parce qu'avant que ne tombe le mur de Berlin, il y a d'abord eu une brèche dans le rideau de fer à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche.
Le plus extraordinaire, c'est qu'à l'époque, l'événement passe presque inaperçu. Nous sommes 6 mois avant la chute du mur, le 2 mai 1989, à Egey-Shalom, une petite ville sur la route entre Budapest et Vienne. À beaucoup d'endroits, le rideau de fer comprend des champs de mines, mais là, on l'a modernisé. C'est un système électrique, seulement il fonctionne mal, les alarmes se déclenchent sans arrêt et personne ne vient jamais le réparer, alors trop cher, trop compliqué. Le ministère hongrois finalement demande aux gardes-frontières d'enlever ces clôtures électrifiées. Très vite, la nouvelle se répand en Europe de l'Est. Il y a un trou dans le rideau de fer. Durant l'été 89, des milliers d'Allemands de l'Est décident d'aller officiellement passer des vacances en Hongrie, au bord du lac Balaton. Ils en profitent pour franchir la frontière vers l'Autriche. En quelques semaines, via la Tchécoslovaquie et la Hongrie, c'est un véritable exode qui s'organise entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. À un tel rythme, disent alors certains, il ne restera bientôt plus que les vieux en RDA.
C'est amusant de constater que c'est un problème technique qui est à l'origine de la première brèche dans le rideau de fer. On a compris donc le contexte, Pierre. Il faut encore le dernier acte pour que le mur de Berlin tombe définitivement.
Et ce dernier moment est d'ailleurs assez incroyable. Le 9 novembre 1989, conférence de presse retransmise en direct à la télévision de Günther Schabowski. Il vient d'être nommé 3 jours plus tôt secrétaire du comité central en charge des médias en RDA. Et ce soir-là, il lit, sans trop sembler en comprendre la portée, une nouvelle réglementation sur les voyages qui va permettre aux Est-Allemands de voyager à l'Ouest sans justification, avec des autorisations permanentes qui pourront être accordées à tous les postes frontières. C'est une véritable révolution. Alors, question d'un journaliste, mais quand est-ce que cette mesure entre en vigueur ? Schabowski tourne longuement les pages sans trouver la réponse. Il finit par dire « Autant que je sache, immédiatement ». Alors, les médias du monde entier annoncent l'incroyable nouvelle. La frontière est ouverte au mur de Berlin. Des milliers d'Est-Allemands veulent en avoir le cœur net. Ils se présentent à la frontière. Ils veulent qu'on ouvre la porte. Affolés et dépassés, les gardes-frontières ne parviennent pas à joindre un responsable. Alors, ils finissent avec cette foule par ouvrir les barrières. C'est la ruée vers l'ouest et c'est fini. La RDA a vécu. Les pages d'histoire avec un grand H peuvent s'écrire de manière inopinée. Ouais. Et sur un malentendu.
Sur un malentendu ou sur une défaillance technique, comme vous l'avez expliqué il y a quelques minutes. C'est une grande page d'histoire, effectivement, cette chute du mur de Berlin. On va continuer à l'évoquer dans Matin Première, jeudi, dans votre série De l'autre côté du mur. Et puis vendredi, émission spéciale qui...